France Musique.
Merci à vous Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour le Classic Club.
Arnaud Merlin, le portrait contemporain, France Musique.
Aujourd'hui,
Fabien Touchard.
Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Fabien Touchard, que l'on a découvert à travers un très beau disque monographique paru récemment sous l'intitulé « Beauté de ce monde ». Profondément marqué par la littérature, en particulier par la poésie, l'art de Fabien Touchard s'exprime dans un langage qui frappe par son sens aigu de la sensation, avec son lot de frottements et d'échappées belles, et qui doit sans doute autant à son amour pour la musique ancienne qu'à sa fréquentation nourrie des musiques d'aujourd'hui. Son catalogue, qui fait une large part à la musique vocale, ne dédaigne pas pour autant la musique instrumentale, en particulier le piano, pour lequel le compositeur aime à chercher d'intrigants modes de jeu. Et pour ouvrir cette émission, je vous propose de nous plonger dans une pièce de musique de chambre, un trio avec piano qui introduit particulièrement bien à l'univers de Fabien Touchard. Un extrait du trio avec piano de Fabien Touchard avec Thomas Lefort, Sari Khalife et Thomas Lavoine, respectivement au violon, au violoncelle et au piano. Bonsoir Fabien Touchard.
Bonsoir Arnaud.
C'est une pièce qui a déjà quelques années, mais vous êtes un tout jeune compositeur, vous êtes né en 1985, c'était en 2011. Quand vous écoutez cette musique, rétrospectivement, est-ce que c'est le Fabien Touchard qui correspond à votre écriture d'aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez changé?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes. Il y a sans doute une base qui est commune.
C'est de quoi? C'est dans le langage? C'est dans le...
Peut-être que dans ce qui a évolué, c'est peut-être des choses, on pourrait dire d'artisanat, entre guillemets. Peut-être une notation plus précise, une recherche sur le timbre, peut-être. Mais malgré tout, là je reconnais des choses qui sont toujours présentes. Il y a cette tonalité de mi bémol majeur que j'aime beaucoup, qu'on va réentendre dans d'autres extraits tout à l'heure. Je parle de mi bémol majeur parce que c'est une tonalité qui me semble très 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 douce, très moelleuse, avec ces trois bémols à la clé et cette espèce de mélange de notes couleurs, on pourrait dire, de polytonalité qui intervient, que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui, et puis un caractère expressif, presque lyrique, et assez doux en même temps. Toute cette base-là est encore présente aujourd'hui.
Vous dites le mot lyrique, alors évidemment c'est dans un double sens, puisqu'on verra que vous êtes très influencé, très marqué,
oui, tout à fait. Par
la poésie. Ce que j'entends aussi là, c'est une influence très, très forte de la mise en perspective de l'histoire de la musique. Il y a quelque chose qui transparaît, qui remonte assez loin, me semble-t-il.
Oui, voilà, il faut dire aussi que ce trio est un hommage quand même assez marqué à Beethoven, puisqu'il y a cette espèce de sonnerie de corps lointaine dans la partie de piano, qui sont une référence assez explicite à la sonate Les Adieux de Beethoven. Et puis même plus loin, dans le trio, il y a tout un truc autour du Musszeszein.
Voilà.
Donc il y a assez, voilà, il y a tout cette référence beethovenienne qui est là. Ouais.
Est-ce que ça veut dire que dans votre formation de compositeur, l'histoire de la musique, l'analyse des partitions a tenu une importance très grande et qu'elle tient toujours cette même importance aujourd'hui? Vous enseignez l'écriture par exemple aujourd'hui?
Oui, je suis prof d'écriture au CRR de Boulogne et donc effectivement on étudie beaucoup la musique de non seulement de Bach à Fauré mais souvent même d'avant et souvent même d'après aussi, donc que ce soit d'un passé récent, très récent ou plus ancien, et cette analyse, cette connaissance du répertoire me semble tout à fait féconde pour une démarche de création aujourd'hui.
Alors il y a quelque temps, on a découvert ce disque qui est paru sous le label Hortus, Beauté de ce monde. Et dans ce disque, il y a des cycles de poèmes que vous avez mis en musique. Alors parfois avec des poètes différents, notamment L'horloge et l'abîme avec plusieurs poètes. Il y a un nom qui revient plusieurs fois dans ce disque, c'est le nom de la poétesse Anne Perrier. Je veux juste lire le texte de Tri voilé que nous allons entendre avant deux autres poèmes mis en musique. Tri voilé d'Anne Perrier. L'âme bleuie de froid, quelle surprise pour la mort qui l'ouvrira d'y trouver la fraîcheur sucrée de la figue mûre. Thank you. Trois poèmes tirés de L'horloge et l'abîme de Fabien Touchard, successivement Trivoilé, poème d'Anne Perrier, Canto d'Inferno, poème de Théophile Deviau, et Reverdi, poème de Dubellay, par Marie-Laure Garnier, soprano, Anna Besson, flûte, Augustin Goris au bois, Guillaume Sigier, piano. Cet extrait de ce disque paru chez Hortus. Fabien Touchard, comment vous est venu cet amour de la poésie, et d'une poésie assez ancienne aussi? Parce que Anne Perrier, c'est quelqu'un qui est disparu récemment, mais Théophile Deviau, c'est plus ancien, et puis Dubellay encore plus.
Oui. Effectivement, Anne Perrier, elle nous a quittés en janvier 2017, C'est une très vieille dame. Et j'ai pas eu l'occasion de la connaître, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé. Donc ça, c'est assez récent, effectivement. Après, les autres poèmes qu'on a entendus, donc il y a un extrait des Regrets de Joachim du Bellay, et une ode incroyable de Théophile de Viau. Alors, j'ai un amour pour la poésie en général, pas particulièrement ancienne, mais j'aime la poésie de toutes les époques. Là, oui. Pour ce qui est d'Anne Perrier, par exemple, là, c'était vraiment le fruit du hasard, parce que je connaissais pas du tout Anne Perrier. Elle est très peu connue du grand public, les musiciens. Moi, je connais pas un seul musicien qui connaisse Anne Perrier. Les poètes la connaissent, mais c'était lors de la commande d'un cycle qui s'appelle « Le silence tombe en moi comme un fruit ».
Qu'on entendra tout à l'heure.
Le titre est un vers d'Anne Perrier, d'ailleurs. C'est à cette occasion que je me suis immergé dans cette poésie. Je me souviens, je me suis plongé dedans pendant une vingtaine de jours, à peu près, avant d'écrire la moindre note. C'était très, très beau.
Ouais. Chez les compositeurs d'aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux reviennent à l'écriture sur des textes poétiques. Je pense à Gérard Pesson, par exemple, qui travaille beaucoup sur des poètes contemporains. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous sentez des affinités?
Gérard Pesson, je le connais parce que il fut mon professeur au conservatoire. Et on écrit une musique très différente, mais en même temps, je pense qu'il y a certaines affinités au niveau de certains types d'écriture. On a entendu dans la pièce qu'on vient d'entendre, par exemple, ce moment où on a le côté touche blanche au piano, très diatonique. Le piano joue uniquement sur les touches blanches et on a une mélodie très simple à la voix. Dans Tri voilé, qui était la première,
j'ai vu le texte.
Il y avait aussi des façons de jouer au piano qui étaient peut-être assez pessonniennes aussi, une façon d'enfoncer certaines touches pour qu'elles de bloquer certaines touches, voilà. Certaines choses comme ça. Après, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont très différentes aussi. Dans la dernière pièce qu'on vient d'entendre, il y a notamment un côté chanson, chanson traditionnelle qui est très présent.
Dans Reverdy, oui.
C'est une fausse chanson traditionnelle médiévale.
Alors, pour revenir peut-être aussi au Moyen-Âge, ou en tout cas au Moyen-Âge, la référence aussi importante à la danse de la mort, c'est un titre que vous utilisez pour Inora Mortis, c'est une de vos études pour piano. C'est un titre de Thomas Bernhardt aussi.
Oui, hein.
C'est plutôt à lui que vous l'empruntez. Mais évidemment, on pense à toute l'histoire de la musique, aussi. En passant par Liszt et puis jusqu'à Thomas Hadès plus récemment.
Oui, il y a peut-être quelque chose d'assez listien dans les vastes arpèges qu'on entend. Alors effectivement, il y a le début, ça peut faire penser à Funérailles aussi. Et Thomas Hadès, c'est un compositeur que j'aime beaucoup. Il y a une pièce de lui pour piano, par exemple, qui s'appelle Traced Overhead, dont la fin est absolument sublime, je trouve. Mais effectivement, tout ça se retrouve dans cette pièce qui a été écrite, on en reparlera sans doute, mais pour le piano, le piano de Stephen Polello, l'opus 102.
Il faut dire un mot quand même de ce piano, parce que c'est un piano qui n'a pas 88 touches, comme les grands pianos que l'on connaît de manière courante, mais 102. Alors, 102, pourquoi 102? Mais alors, ça veut dire aussi qu'on a, par exemple, dans le grave, des choses qui sont un petit peu...
Absolument.
Qui vibrent de manière très particulière, qu'on aimerait presque du mal à entendre.
Oui, il y a un côté gong dans ces graves incroyables. C'est un piano tout à fait atypique qui a été conçu par Stephen Polello. C'est un piano à 102 touches, donc, comme vous l'avez dit, qui fait 3 mètres de long. Enfin, c'est un vrai paquebot.
Un
corde parallèle. Et donc, effectivement, il y a des graves en plus et des aigus en plus. Donc, il y a une sixte majeure en plus dans le grave. Donc la note la plus grave du piano, c'est un La qui est déjà très très grave. Là, on descend encore jusqu'au Do, en dessous. Quoi. Donc c'est le bourdon de Notre-Dame. Quoi.
J'imagine que quand on est compositeur, on a envie d'explorer ses limites. On va l'entendre tout de suite avec un large extrait de Inora Mortis.
Qui commence d'ailleurs, la première note que l'on entend est justement cette touche la plus grave du piano.
Thank you.
Un large extrait de In Ora Mortis, étude pour piano numéro 4 de Fabien Touchard, sous les doigts de Philippe Attat. Philippe Attat qu'on a entendu dans le cadre du concours international de piano d'Orléans, je crois qu'il était lauréat d'un, d'un des prix. Les compositeurs aussi, Philippe Attat de son côté, je crois, Fabien Touchard.
Oui, il était finaliste du concours d'Orléans et il est compositeur. Mmh. D'ailleurs, il a eu un prix de composition à ce concours.
Alors, on entend bien ce piano très particulier construit par Stephen Polello, à la fois dans l'extrême grave et dans l'extrême aigu. On rappelle ce piano de 102 notes pour lequel peu de compositeurs ont encore écrit pour le moment. Alors, on lance un appel. Si, oui, si les compositeurs nous écoutent, je sais qu'il y en a un certain nombre qui nous écoutent. Et c'est quelqu'un qu'on peut contacter. Il est en Bourgogne, c'est ça?
C'est ça,
Bourgogne,
il proche est de Paris. À Champigny-sur-Yonne.
Ça se trouve facilement.
Oui, et je pense qu'il a travaillé avec quelques compositeurs déjà, mais je trouve que son piano, avec la richesse de timbre, là on entend bien la profondeur de ses graves et la richesse en harmonique qui est générée, ne serait-ce que la présence des cordes graves, enrichit, embellit complètement la sonorité du piano, même lorsque les graves ne sont pas jouées d'ailleurs.
Fabien Touchard, tout à l'heure, vous faisiez allusion à la chanson. Vous parliez du, vous prononciez le mot chanson. Il se trouve que c'est une part de vos activités aussi, puisque vous travaillez également comme improvisateur, comme arrangeur. Vous avez œuvré pour le hall de la chanson, qui se trouve à Paris, à la Villette. Vous avez aussi participé à la nuit du ciné-concert. Et puis, pour l'ensemble AEDES que dirige Mathieu Romano, vous avez réalisé quelques arrangements sur des chansons de Jacques Brel. Qu'est-ce que c'est un arrangement pour un compositeur comme vous, Fabien Touchard?
Un arrangement, pour moi, ça peut avoir deux sens. Ça peut avoir le sens de transcription, c'est-à-dire de réécrire pour un ensemble instrumental différent de celui d'origine, réécrire la même musique pour un autre ensemble instrumental, mais ça peut avoir un autre sens, qui est un sens plus, encore plus créatif. C'est-à-dire, on garde, là en l'occurrence, on garde la mélodie, on garde le texte et on réécrit entièrement l'accompagnement. Tout le reste est complètement inventé. Et d'ailleurs, c'est un travail que j'aimais déjà beaucoup faire avec mes amis du hall de la chanson, Serge Hureau et Olivier Husney, que je salue bien. Et plus généralement, le travail avec des comédiens, chanteurs. Je travaille beaucoup avec des comédiens. Et voilà, et on retrouve là le rapport avec le texte, le rapport avec la dramaturgie. Pour ce qui est de l'arrangement d'Aedes, j'avais vraiment envie de mêler des influences très très différentes, des choses qui s'éloignent parfois radicalement de Brel. On retrouve, moi parfois je pensais au concerto pour cœur de Schnittke, plein de choses différentes. Pour les injecter dans ce style-là et de retrouver ce côté composite, ce côté mélange des styles que j'affectionne particulièrement.
L'amour est mort de Jacques Brel, arrangement Fabien Touchard. Un large extrait de « L'amour est mort » de Jacques Brel dans l'arrangement de Fabien Touchard. C'est paru sur un disque Évidence proposé par l'ensemble ALS dirigé par Mathieu Romano.
Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
Fabien Touchard, lorsque je lis les différents entretiens que vous avez donnés à la presse, je vois que les noms qui reviennent dans votre panthéon musical, c'est bien sûr Jean-Sébastien Bach, plus près de nous, Olivier Messiaen, mais aussi bien la génération Ligeti, Stockhausen, Boulez, que Arvo Pärt, aussi bien Schnittke, Gubaidulina, Hersant ou Olivier Greff, que quelqu'un comme Salvatore Chiarino. Ça veut dire que vous avez des intérêts extrêmement vastes et qu'on peut concilier tous ces amours, tous ces intérêts.
Oui, je pense, tout à fait. Je pense qu'il y a là une diversité, une richesse musicale et pas forcément des choses qui sont en opposition. Moi, quand j'étais adolescent, j'ai découvert les musiques de Messiaen, de Stockhausen, de Boulez, de le Ligeti des années 60. C'était un monde, tout un monde qui s'ouvrait. C'était formidable. Et dans un second temps, j'ai découvert les Schnittke, les Gubaidulina, les Olivier Greff, les Jean-Louis Florenz, toutes ces choses-là qui. Olivier Greff, j'ai une grande affection, par exemple, pour. Je ne peux pas écouter le final du concerto pour violoncelle sans que ça m'arrache une larme. C'est vraiment, je trouve ça magnifique.
Finalement, quand on est né en 1985, quand on a eu 15 ans en l'an 2000, forcément, on prend position de manière très différente de la manière dont les compositeurs devaient se situer dans les années 60, tout simplement.
Mais oui. Je trouve que les querelles d'école n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Je pense que les compositeurs de ma génération, ou les plus jeunes,
au-delà des querelles d'école, voilà. Il y a quand même des affaires de filiation. Peut-être que vous vous sentez plus proche de vous parler de Schnittke ou de Olivier Greff ou de Jean-Louis Florenz que d'autres générations peut-être plus radicales ou plus avant-gardistes, pour employer des mots qui sont un petit peu dépassés aujourd'hui.
Oui, moi je me sens assez proche, oui, de Greff, ça j'en ai parlé. Mais et en même temps, vous voyez, là, dans l'horloge et l'abîme qu'on a entendu tout à l'heure, il y avait une pièce où il y avait des modes de jeu à la flûte qui m'étaient lointainement inspirés de Chiarino, complètement. Je trouve que les pièces pour flûte seule de Chiarino, ce sont des pièces qui développe des modes de jeu extrêmement sophistiqués et toujours empreints d'une très grande poésie. Je trouve ça très très beau. Et je trouve qu'il n'y a pas du tout d'incohérence à apprécier. Admettons le travail de Jean-Louis Florenz, le travail de Gérard Pesson et de Salvatore Chiarino. Et vraiment tout ça. Moi je trouve qu'il ne faut se priver de rien. Voilà. Et qu'il faut prendre les belles choses là où elles se trouvent.
C'est une manière de se situer après le postmodernisme dans un sens, on pourrait dire ça.
Ouais, je pense que peut-être même qu'on fait partie d'une génération de compositeurs qui a tiré les leçons du postmodernisme. Peut-être qu'on est même au-delà de cette question. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie de concevoir une pièce qui empruntera à l'électroacoustique, au gospel, à la polyphonie de la Renaissance et à Salvatore Chiarino, bah très bien pour moi. Ça, c'est, je trouve que c'est une bonne direction pour les années à venir.
On se replonge dans ce disque paru chez Hortus avec trois poèmes d'Anne Perrier mis en musique par vous-même, Fabien Touchard. Le cycle s'intitule « Le silence tombe en moi comme un fruit, successivement tout est consenti, puis par les forêts et les fougères, puis suspendu au fil ».
Par les
trois poèmes d'Anne Perrier mis en musique par Fabien Touchard, successivement Tout est consenti, Par les forêts et les fougères et Suspendu au fil, extrait du cycle Le silence tombe en moi comme un fruit. C'est un extrait de ce disque paru récemment chez Hortus. Les interprètes étaient Fiona McGone, mezzo-soprano, Myrtille Hetzel, violoncelle, Marie Olivon au piano. Ce sont des musiciens de votre génération, Fabien Touchard, que vous avez connu au conservatoire. C'est une petite bande d'amis aussi, les musiciens, les interprètes avec qui vous travaillez.
Alors, ce sont parfois des amis. Dans le contexte où ce sont des commandes plus extérieures, ça peut être des personnes que je ne connais pas du tout. Là, en l'occurrence, je connais très bien Fiona, Myrtille et Marie. De même que tout à l'heure, on a entendu Inora Mortis par Philippe Atta, que je connais très bien. Donc il y a des affinités qui se créent, et c'est vrai que le lien humain est extrêmement important aussi, bien sûr.
Alors on a fait allusion tout à l'heure à votre goût pour les comédiens, on a fait allusion aussi à votre goût pour la musique ancienne. Vous avez écrit un cycle pour mezzo-soprano et viol de gambe, par exemple. On peut élargir comme ça le cercle des instruments et des instrumentistes que vous convoquez. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire dans les mois et les années qui viennent pour élargir encore le propos à d'autres registrations instrumentales?
Effectivement, donc là je viens de terminer un cycle pour viol de gambe, pour Anaïs Bertrand et Robin Faro, qui s'appelle The Waves. Et qui sera donné au Festival Radio France à Montpellier en juillet sur des textes de Virginia Woolf ou d'autres. Et ça, c'était un travail. J'ai écrit 2-3 pièces de viol de gambe avant d'arriver vraiment à maîtriser l'instrument, parce que moi, je suis pianiste de formation. J'aime beaucoup improviser au piano, on l'a dit. L'écriture pour cordes, pour un pianiste, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. C'est vraiment et ça fait partie des choses que maintenant j'enseigne à mes élèves, tout ce qui est instrumentation, arrangement, maîtrise de l'écriture pour cordes, etc. Ça fait partie des enjeux. Et alors, la viol de gant, en plus, moi qui étais très familier avec les cordes dites modernes, il a fallu que je m'immerge là-dedans.
Ouais. Vous travaillez aussi sur un mélodrame avec Didier Sandre, de la Comédie Française, et puis un ensemble dirigé par Julien Masmondé, c'est les Apaches, ça sera aussi pour la rentrée à l'Athénée ?
Oui, tout à fait. Alors, sur un texte de Mathias Sénard, des poèmes de Mathias Sénard, et l'ensemble, donc c'est un ensemble avec récitant, ce sera Didier Sandre, avec mezzo et un ensemble instrumental d'une quinzaine de personnes. Ce sera à l'Athénée au mois de septembre, oui.
Et puis, il y aura aussi, également en septembre, c'est une commande de la Scala Paris, ce nouveau lieu qui se trouve sur les grands boulevards, pas très loin de la gare de l'Est. Une création pour piano seul avec David Cadouche.
Tout à fait, là, pour changer des projets autour de la poésie, autour de la voix, un peu de piano seul, hein, avec David Cadouche et d'autres compositeurs qui seront là.
Alors précisément, on va retrouver, non pas David Cadouche, mais Philippe Attat pour un autre extrait d'une pièce pour piano. Ça s'intitule « Prélude pour piano multiple », prélude au pluriel. Donc j'imagine que là, on va en entendre un extrait, ce sera un de ces préludes, le dernier.
C'est le dernier prélude. Thank you.
Le dernier des préludes pour piano multiple de Fabien Touchard par Philippe Attard. Piano multiple, Fabien Touchard, pourquoi multiple? On entendait quoi ici en fait?
Là on entendait Philippe Attard qui jouait avec lui-même, ouais. Philippe Attard dupliqué. Si vous voulez, tout était enregistré en recording. Mmh. Donc c'est-à-dire que Philippe enregistrait une piste, puis une seconde piste qui était superposée à la première, puis une troisième piste qui était superposée aux deux autres, etc. Jusqu'à ce que toutes les couches superposées ensemble finissent par donner la pièce que j'avais prévue, que j'avais composée. Et c'était un projet qui était une commande de l'école normale de l'ENS dans le cadre d'une recherche scientifique.
Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait que vous étiez pianiste à l'origine, Fabien Touchard, mais vous jouez encore un peu de piano, si je comprends bien. Vous enregistrez, vous jouez aussi du piano?
Oui, le piano est un outil du quotidien pour moi, un outil de composition, un outil pédagogique, un outil de travail avec les musiciens, un laboratoire de recherche quand j'improvise, et aussi un instrument qui me permet de relire quand j'ai terminé une pièce, pour être sûr que je ne laisse pas trop de bêtises. Je travaille beaucoup à la table, voilà. Je relis un peu au piano à la fin.
On faisait allusion au fait que vous allez avoir des créations à la fois au Festival Radio France Montpellier en juillet prochain et puis également à la rentrée en septembre. Mais auparavant, il y aura deux rendez-vous. L'un, c'est la semaine prochaine, le 17 mars à 19h au studio Le Regard du Cygne. C'est à Paris. C'est une sorte de concert lecture avec Anaïs Bertrand, mezzo, Robin Faro, viol de gambe et Marlène Goulard, récitante. Ce qui revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la viol de gambe. Et puis aussi, dans un registre différent, des nouveaux blues. Alors ça, c'est pour le quatuor vocal, l'ensemble Méliade, et ce sera c'est dans le Limousin, le 18 mai prochain.
Tout à fait.
Quatuor vocal, c'est une formation que vous appréciez particulièrement?
Oui, et là, c'est un quatuor vocal composé uniquement de voix de femmes, de soprane et de salto. Et c'est un blues qui est même en deux temps, qui est composé en vérité d'un blues et d'un gospel. Mmh. Si vous voulez, là je suis un peu dans ma période qui vient après la publication du premier CD monographique, qui est une première synthèse pour moi, et là je me demande en ce moment et maintenant vers quoi aller. C'est une période particulièrement stimulante, quoi. J'ai un peu l'impression que des choses vont se produire plutôt dans le domaine d'élargir l'esthétique vers, mmh, peut-être vers la pop, vers le gospel, vers des formes de vocalité un peu plus soul, peut-être des choses comme ça. J'ai l'impression que ouvrir les fenêtres de cette façon permettrait de ce serait assez vivifiant et assez stimulant d'un point de vue esthétique.
Alors on va suivre ça bien sûr avec plaisir et intérêt dans les mois qui viennent, Fabien Touchard. On va se quitter avec un autre enregistrement issu de ce disque chez Hortus, et on retrouve d'ailleurs le piano à 102 notes de Stephen Polello que vous jouez ici avec Anaïs Bertrand, mezzo-soprano. Ça s'appelle Three Things sur un poème de Yeats. Thank you. Three Things de Fabien Touchard sur un poème de Yeats par Anaïs Bertrand avec le compositeur au piano. Ainsi se referme ce portrait. Je rappelle les prochains concerts le 17 mars, 19h, au Regard du Cygne à Paris. Et puis un peu plus tard, le 18 mai, à l'Atelier 313, ça se trouve à Hill dans le Limousin. Je rappelle la parution il y a quelques mois du disque Beauté de ce monde sous le label Hortus. Merci beaucoup Fabien Touchard d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci beaucoup.
Merci à Nico Mier qui nous a aidé à préparer cette émission qui a été réalisée par Jean-Claude Mullet avec ce soir à la technique Alain Joubert. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Alexandros Markeas qui est à l'affiche du Printemps des Arts de Monte-Carlo ces jours-ci. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.